En pleine torpeur caniculaire, on a passé la journée à marcher sur des œufs tout en retenant notre souffle. On ne voulait surtout pas casser notre jouet avant d'en savoir plus sur le chiffre magique de l'inflation qui va nous tomber dessus dans quelques heures. Encore une fois, je sais plus la combientième, encore une fois, on nous a dit que ce chiffre-là, celui-là, hein, vraiment celui-ci, il peut tout changer et dessiner la stratégie de la Fed pour les mois à venir. Qui sait, peut-être même les années à venir. Bon, eh ben, c'est des conneries, hein. C'est des conneries parce que depuis que Powell a déclaré qu'il arrêtait de monter les taux en octobre 2023, à chaque chiffre économique qui sort, que ce soit le CPI, le PCE, les NFP, et parfois même le discours post-FOMC meeting, on nous vend l'histoire comme quoi ça va changer nos vies et qu'après, plus rien ne sera pareil. C'est des conneries. Comme d'habitude, on va prendre le chiffre, le tourner dans tous les sens, analyser les rapports, écouter les discours des uns et des autres, et ensuite spéculer. Spéculer pour savoir ce que Powell pourrait bien en tirer comme conclusion, et donc qu'est-ce qu'il pourrait en faire au mois de septembre. Et ensuite, 35 minutes après la publication du chiffre, ChatGPT va nous donner une estimation de la probabilité de ce que la Fed pourrait éventuellement peut-être faire au mois de septembre et les mois suivants, bien sûr. Et puis on passera à autre chose. Je sais pas moi, la nouvelle crise de nerfs de Trump, la nouvelle cravate de Trump, le nouveau droit de douane de Trump, et puis demain, ce sera un autre jour et on se concentrera sur les chiffres du PPI qui, eux, ils pourraient peut-être tout changer parce qu'ils vont tenir compte de l'inflation liée aux droits de douane mis en place le 7 août. Par contre, il nous reste une certitude, une seule. Nous sommes mardi et demain, ça sera mercredi. Enfin, à moins que Trump décide de changer l'ordre des jours dans la semaine. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 août 2025. Je suis Thomas Veillet et ce matin, on attend le CPI. Au cas où vous auriez pas compris, hein. Comme hier d'ailleurs. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc, nous avons passé la journée à attendre. Résultat, le S&P a fait du surplace, moins 0,25%, le Dow Jones a perdu 200 points et le Nasdaq, il a glissé de 0,3%. Les volumes étaient maigrichons, à peine la moitié d'une journée normale. Le 10 ans américain s'est calé à 4,28 comme un campeur qui a trouvé sa place et qui ne bouge plus. Et puis les experts en taux et en Fed, eux, ils jouent déjà la suite. Si l'inflation est plus basse que prévu, la probabilité d'une baisse des taux au mois de septembre, déjà estimée à 90%, pourrait monter en flèche. Enfin, monter en flèche, quand t'es à 90% de probabilité, tu peux pas non plus monter à 158% de probabilité de voir une baisse des taux en septembre. Sans compter qu'entre le prochain meeting de la Fed et maintenant, on va encore avoir droit aux chiffres de l'emploi du mois d'août, un autre round de PPI, de CPI, un autre PCE, la réunion de Jackson Hole et Trump qui est susceptible de nous sortir un truc inattendu toutes les 24 heures. On a donc un paquet de raisons de supposer que le chiffre de 90% qui pourrait monter en flèche tout à l'heure pourra également être révisé et remanié environ 214 fois au moins avant que Powell prenne une décision officielle. Et ça, c'est seulement si le CPI est plus bas que les attentes. Alors par contre, s'il est plus haut que les attentes, préparez-vous à entendre des phrases comme stagflation et erreur de politique monétaire durant tout le reste de la semaine, ou en tous les cas pendant les 12 prochaines heures. Pour le reste, la star de la journée, encore une fois, c'était Oncle Donald. Le patron du monde libre n'a même pas fait durer le suspense jusqu'à la dernière minute, puisqu'à quelques heures de l'échéance, le président américain a signé une prolongation de 90 jours de la trêve tarifaire avec Pékin. Traduction, pas de retour immédiat aux droits de douane stratosphériques de 145% sur les jouets, les meubles et les chaussures chinoises. On garde des petits tarifs actuels, 30% côté US, 10% côté chinois, en attendant de voir si Xi Jinping est prêt à passer commande de soya américain par cargo entier comme Trump le réclame sur Truth Social. C'est un répit pour les marchés, mais pas non plus une solution. Hein. Puis les économistes préviennent. Hein. Jusqu'ici, les entreprises ont encaissé 64% de la facture des tarifs, laissant aux consommateurs seulement 22% du choc. On sait pas trop où est passée la différence, mais ça ne durera pas. Goldman Sachs anticipe que d'ici quelques mois, 67% du fardeau des droits de douane passera directement sur le dos des ménages. Les ménages, c'est vous et moi. Parce qu'à un moment, quand les stocks constitués en début d'année
seront vidés, les prix vont forcément grimper et là, la Fed devra choisir entre soulager l'économie avec des taux plus bas et un petit massage aux huiles chaudes ou alors combattre un retour de l'inflation. Et ça, ça se fera à coup de fouettage aux orties. Mais alors par contre, pour être franc, l'annonce du report du moratoire chinois est passée pratiquement inaperçue tellement on s'attendait à une réaction plus vindicative du président américain. Peut-être qu'il était trop occupé à gérer le CEO d'Intel dans le bureau ovale. Oui, parce que la semaine dernière, Trump voulait la peau de Lip Bu-tan, CEO d'Intel, accusé de liens trop étroits avec la Chine et de casseroles héritées de son passage chez Cadence Design System, qui a plaidé coupable pour exportation illégale. Ce lundi, après un rendez-vous à la Maison Blanche, Tan devient un homme à l'histoire incroyable. Intel gagne 3,7% en séance, plus 2,5% après clôture. Officiellement, ils ont parlé de renforcer le leadership américain dans la tech et la fabrication. Officieusement, on a plutôt l'impression qu'ils ont parlé subventions et survie industrielle. Oui, parce qu'Intel, c'est le seul fabricant américain de semi-conducteurs de pointe qui se demande encore si ça vaut le coup de continuer à fabriquer son client majeur pour sa future technologie. Par contre, Washington, ils veulent pas vraiment perdre cette vitrine stratégique, mais tout le monde sait que l'usine géante de l'Ohio prend déjà du retard. Donc la grosse baffe médiatique contre Intel la semaine dernière s'est donc terminée en café croissant diplomatique avec grosse tape dans le dos et l'échage de bottes en règle. Peut-être que le Conseil fédéral devrait tenter l'approche d'Intel. Bon, en même temps, hier, la Suisse a bien tenté un coup médiatique avec le fabricant de meubles du Conseil fédéral, puisque Martin Pfister s'est dit ouvert à l'idée d'acheter des armes aux Américains pour réduire les droits de douane. Alors, je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais il y a quand même un truc un peu louche là derrière. Hein. Trump taxe la Suisse en se basant sur des chiffres du déficit commercial qui n'existe que dans sa tête. Ensuite, il méprise les conseillers fédéraux qui vont le voir à Washington. Bon, en même temps, il y avait Parmelin, il a dû croire que c'était une délégation de vignerons qui venait vendre du pinard dans la région. Et après tout ça, on voudrait acheter plus d'armes aux Américains pour qu'ils soient plus gentils avec nous. Alors bon, moi, je suis pas psychologue, ni psychiatre, mais je pense qu'il y a quand même un truc à creuser avec une petite série de psychothérapie. Bref, mis à part ça, on peut encore parler des autres dossiers chauds de la séance, malgré le fait qu'on s'en foutait un peu, parce que notre seule activité officielle était de passer la séance sur ChatGPT pour faire des simulations sur le CPI et les taux de la Fed. Néanmoins, on est revenu sur le sujet Nvidia AMD, puisque pour continuer à vendre certaines puces AI à la Chine, ils vont devoir verser 15% de leurs revenus de ces ventes au gouvernement américain. Les marges vont souffrir, mais c'était ça ou un bannissement total. Les analystes craignent quand même que ce deal devienne un précédent pour d'autres secteurs stratégiques. Et peu importe l'interprétation qu'on veut bien en faire de ce racket, les deux actions des deux sociétés des stars de l'IA ont utilisé une belle citation de Jacques Chirac pour décrire leur séance. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Les deux actions sont restées totalement immobiles, un peu comme si tout d'un coup elles avaient annoncé qu'elles changeaient de business model et que dorénavant elles vendraient du dentifrice. Par contre, toujours dans le même secteur, Micron a relevé ses prévisions et prenait 4%, une des rares vraies bonnes surprises de la séance d'hier. Et puis, comme pour confirmer qu'il y a intelligence artificielle et intelligence artificielle, BigBear.ai a publié ses chiffres after close et c'était tout simplement immonde. 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 Oui, la mode de l'intelligence artificielle ne suffit pas toujours. Son chiffre du second trimestre est tombé à 32,5 millions de dollars contre 40,6 millions de dollars attendus avec une perte de 71 cents par action alors que les analystes attendaient une perte de 6 cents. La société a abaissé sa prévision 2025 de 25%. Le CEO Kevin McAleenan attribue ce recul à des perturbations dans les contrats fédéraux liés à un plan d'efficacité gouvernementale. Ça, c'est la version administrative, mais en gros, ça veut dire qu'on taille dans le gras pour économiser le fric qu'on n'a pas forcément à Washington. Mais le patron de Big Bear reste optimiste grâce au projet de loi fiscale et de dépenses de Trump qui injecterait du pognon dans le secteur pour les technologies de rupture, typiquement dans le secteur militaire. Big Bear entré en bourse en 2021 via un SPAC et qui vend des solutions d'intelligence artificielle au Pentagone et à d'autres agences fédérales. Se retrouve dans une situation un peu compliquée quand même. Comme quoi, promettre de révolutionner la défense ne paye pas toujours. Le titre s'est fait littéralement déglinguer de 23% after close. Par contre, alors que la saison touche à la fin, la saison des résultats, on notera quand même que globalement, la saison américaine a été relativement meilleure que prévu. On attendait plus de 2,8% de croissance des bénéfices au deuxième trimestre et on arrive finalement à 10,5%. Ça donne un peu d'oxygène au marché. Tout ne va pas si mal finalement. Bon, après, il faut aussi voir de combien les attentes ont été rabotées ces derniers mois pour ne pas être déçus. Mais ça, on sait pas. Ça, on dit pas. On dit juste qu'on est content. Après, pour être parfaitement complet et surtout parfaitement objectif, vous me connaissez, on peut aussi parler du dernier sondage de Bank of America. Oui, parce que selon leur enquête mensuelle auprès des gérants de fonds mondiaux, un record de 91% de gérants estiment que les actions américaines sont surévaluées contre 87% en juillet. En clair, les investisseurs jugent que le prix payé pour un morceau des bénéfices des entreprises américaines n'est pas justifié par leur potentiel. Alors aujourd'hui, le S&P 500 se paye 22,34 fois les bénéfices attendus sur 12 mois, soit le plus haut de la fourchette observée depuis 10 ans. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que si Powell y baisse les taux, tout va se régler comme une fleur. Du côté de Sydney, on est légèrement en haut ce matin. On attendait au début de la matinée une probable baisse des taux de la RBA qui était prévue. Comme hier, on attendait déjà ça. Et moi, j'ai attendu 2 minutes ce matin pour voir l'heure passer. Et puis finalement, effectivement, la Banque Centrale Australienne a baissé les taux de 0,25% comme prévu. Le pétrole stabilise autour des 64$ en attendant la rencontre au sommet entre Tic et Tac qui doivent se rencontrer vendredi en Alaska. Et dans les news du moment, les trucs dont on parle, on retiendra que la chasse à Powell est toujours dans l'actualité, puisque Bloomberg nous a appris ce matin que la shortlist pour lui piquer son fauteuil commence à ressembler à un speed dating monétaire. Dans les favoris, Lori Logan de la Fed de Dallas, Michelle Bowman et Philip Jefferson, deux vice-présidents qui connaissent déjà la Fed comme leur poche. Powell, vous savez, voit son mandat s'arrêter en mai 2026, et ça fait déjà des mois que Trump lui colle des scuds en conférence de presse pour son manque d'empressement à baisser les taux. Alors à la manœuvre, pour trouver son remplaçant, on a Scott Bessent, secrétaire au Trésor et chef du casting. Et il ne manque pas de candidats, puisqu'en plus de tout ça, on a aussi Christopher Waller, Kevin Assett, Kevin Warsh, James Bollard et Mark Summerlin sont aussi dans les starting blocks. On parle même d'Homer Simpson ou d'une double direction avec Mickey et Donald. Côté orientation monétaire, c'est simple. Bowman, Waller, Assett et Warsh sont déjà prêts à couper les taux là maintenant tout de suite hier. Et Logan, elle reste droite dans ses bottes. Inflation encore trop haute, pas de baisse pour le moment. Par contre, Jefferson, lui, joue la carte du mystère. Pas de signal très clair, histoire de rester invité à tous les meetings jusqu'au dernier moment. Autre nouvelle du jour, Elon Musk a encore sorti le bazooka sur X hier. Il menace Apple de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles, accusant l'App Store de favoriser ChatGPT au détriment de son chatbot, le Grok. Selon lui, Apple bloque toute IA autre que OpenAI dans sa section Must Have, alors que Grok est déjà numéro 5 des apps gratuites et X numéro 1 dans le secteur des news. Apple est partenaire d'OpenAI et a intégré ChatGPT dans les appareils, ce qui avait déjà valu à Musk de menacer de bannir les iPhones de ses entreprises. Musk et OpenAI, c'est une guerre ouverte depuis son départ en 2018. Aujourd'hui, il les poursuit en justice pour trahison de leur mission initiale. Et OpenAI vient donc de sortir ChatGPT numéro 5, vous le savez. Grok 4 est arrivé le mois dernier et la guerre des modèles d'intelligence artificielle bat son plein. Sam Altman a déjà répliqué en insinuant que Musk manipule lui-même X pour servir ses intérêts. Apple, elle, est déjà visée par plusieurs procédures antitrust. Ils n'ont pas réagi pour l'instant. Monstre ambiant chez les très très riches qui devraient d'ailleurs être contents puisque la nouvelle loi fiscale de Trump devrait arranger encore un peu plus les gens qui sont très très riches. Complètement par hasard, il semblerait d'ailleurs. Comme quoi, le hasard, il fait bien les choses pour les plus riches en tous les cas. Et puis, je suis obligé de parler un peu de l'or parce que oui, Trump est encore au centre de quelque chose. De plus, Donald Trump a tranché hier, l'or ne sera pas taxé, point. Fin du suspense. Sur Truth Social, son réseau, il a publié un communiqué présidentiel pour calmer le marché après qu'un document des douanes, mal interprété ou mal rédigé, on sait pas, ait semé la panique et propulsé une médaille jaune à un record l'autre jour. La confusion venait d'une mise à jour listant les lingots d'un kilo et de 100 ounces comme quoi ils seraient soumis aux droits de douane alors que tout le monde les pensait à l'abri. Résultat, à vendredi, les traders se sont rués sur l'or comme sur un paquet de pâtes pendant le confinement. La Maison Blanche a ensuite promis un décret pour clarifier la situation, sans vraiment dire noir sur blanc si l'exemption serait maintenue. Trump, lui, il a donc tout simplement fait assez simple. Message direct, tout en majuscule pour rappeler qui est le patron du game pour l'instant. Le marché est soulagé, il a pu respirer, au moins jusqu'au prochain tweet. Bref, tout ça pour dire que Musk s'énerve, Nvidia ne bouge pas, AMD non plus, la course à la présidence de la Fed devrait bientôt se faire par tirage au sort tellement les candidats sont nombreux, la Chine va avoir 3 mois de plus pour négocier, à moins que Trump tourne la veste en cours de route, ce qui est fort probable, et les taux, ils vont baisser en septembre. Enfin, si le CPI est d'accord cet après-midi, puisqu'à 14h30 heure suisse, on saura, l'inflation annuelle est attendue à 2,8% contre 2,7% le mois dernier. Je vous répète encore une fois, une hausse confirmerait que les tarifs commencent à mordre et pourrait refroidir les ardeurs de Powell sur une éventuelle baisse des taux. Au mois de septembre, une baisse relancerait la machine haussière sur la tech, surtout, vous connaissez la musique. Mais comme d'habitude, peu importe ce qui va se passer, on se dira qu'il y avait un avant le CPI et un après le CPI, mais que souvent, l'avant et l'après, Bah, c'est justement les mêmes. Pour le moment, les futurs sont légèrement en hausse et le compte à rebours est lancé. Quel suspense! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour de nouvelles aventures, pour un nouveau Morning Bull Live et pour vous compter les analyses qui auront été faites sur le CPI. Très belle journée à tous. Bye bye!